Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet audio qui va évoquer le joyau. Alors, pour la blessure d'abandon, nous avons une petite particularité parce que ce joyau est en fait une triade, un joyau triade ou tripartite, c'est-à-dire qu'il est composé de trois concepts proches et interdépendants. On peut dire trois concepts frères, hein, mais tout de même différents. Et ce sont donc les concepts d'estime de soi, de confiance en soi et d'amour de soi. Nous allons donc les voir un par un et puis également regarder comme ils sont liés entre eux, très fortement liés. Donc je vous propose de commencer avec l'estime de soi, qui est une composante de base en fait de notre personnalité et donc de notre ego, et qui va évoluer tout au long de notre vie. Alors, avoir une estime de soi forte et saine, c'est un peu comme un pilier, un soutien pour avancer dans la vie, donc pour se réaliser sur le plan de notre dharma ou destin, selon la planification de notre âme. A l'inverse donc, une faible estime de soi va ne pas avoir un soutien suffisamment fort pour nous permettre de nous réaliser nous-mêmes, et va donc freiner très fortement le fonctionnement de tout individu. L'estime de soi, ça représente la valeur d'une personne et l'importance qu'une personne s'accorde à elle-même. Donc on est vraiment sur un système de valeur et de reconnaissance de cette valeur-là. L'estime de soi va dicter le comportement donc, de l'individu, de la personne, en la faisant passer ou non à l'action, selon qu'elle s'estime donc d'avoir la valeur de faire cette action ou non. Donc en fait, une bonne estime de soi va nous permettre d'oser faire quelque chose ou pas. L'estime de soi influe également sur le regard que l'on porte sur soi en se voyant de façon plutôt positive ou négative, mais également dans cet enchaînement entre les deux, de passer d'une polarité extrême à l'autre. Et donc, c'est ce qui explique notamment l'évolution des humeurs et des émotions lorsque on a cette évolution entre ces deux extrêmes. Et ces grands vides émotionnels, en fait, que l'on vit, hein, et dont on a déjà parlé dans les symptômes de la blessure. Psychologiquement, on sait que les toutes premières relations d'une personne, donc ses premiers liens d'attachement, vont jouer un rôle énorme, vont avoir un impact incroyable sur la construction de l'estime de soi qui va devenir, comme on l'a vu, une véritable fondation de la personnalité de la personne, de l'individu et une fondation vers la réalisation de soi. Donc, ce sont des fondations qui jouent un rôle important également sur le regard que l'on porte sur soi-même et, comme je le disais, sur notre capacité à nous réaliser, mais aussi sur la qualité que l'on va avoir avec les relations avec les autres. Donc, l'estime de soi va jouer donc oui sur nos ambitions, sur leur mise en œuvre, sur leur succès ou leurs échecs, et donc tous nos accomplissements personnels, mais aussi vraiment d'un autre point de vue relationnel. Donc, la réalisation de soi, mais également la réalisation finalement sociale. Une estime de soi non construite ou beaucoup trop faible va nous limiter, nous inhiber, nous entraver vraiment, hein, que ce soit dans le terme du faire, dans le terme de l'avoir ou même de l'être. C'est vraiment sur ces trois pôles que ça va aussi agir. Et donc on a un espèce de cercle vicieux comme ça qui se met en place parce que quand on regarde du coup la qualité de l'estime de soi, on va se rendre compte que chaque échec, chaque blocage et chaque incapacité vont encore affaiblir davantage et davantage l'estime de soi et la confiance en soi. Donc là les deux vont avoir un impact. Donc c'est-à-dire que l'estime de soi nous bloque et le fait de ne pas avoir de succès va entraîner un affaiblissement de l'estime de soi. Donc progressivement, ce cercle vicieux va nous bloquer davantage, davantage, davantage jusqu'à être totalement pétrifié. Une faible estime de soi développe également en nous beaucoup beaucoup de remises en question, un sentiment de solitude et une dépendance à une vie plutôt normée qui suit une direction précise, hein, normée par la société, etc. Parce qu'il y a ce besoin justement d'appartenir. Je vais y revenir un petit peu plus loin, un petit peu creuser. Parce que j'ai plutôt envie de parler là maintenant du fait que cette remise en question, cet affaiblissement de la réalisation va en fait engendrer de vivre dans une illégitimité, en fait, d'être vraiment dans le syndrome de l'imposteur, l'impression de n'être pas à sa place et de ne pas être légitime. Et ça, c'est peu importe le nombre de diplômes, le nombre de formations que l'on a, on a vraiment pas l'impression d'être à sa place et qu'on est en train de tromper tout le monde. Donc, ça entraîne une grande dépendance au niveau du regard des autres qui peut devenir une obsession. Et une obsession donc handicapante, comme l'hypervigilance en fait, qui dissèque tous les petits détails hein, des autres, de la moindre de leur réaction, de leur moindre parole, jusqu'à leur moindre regard. Et cela amène en fait à avoir envers ces personnes-là des jugements très négatifs, mais aussi des jugements négatifs vis-à-vis de soi. Car lorsque la personne a une faible estime de soi, elle va forcément penser qu'il est ou qu'elle est la cause en fait des comportements négatifs qu'il va voir à travers les autres. Et vu qu'il est en hypervigilance, il va capter, enfin la personne, l'individu va capter tous les détails négatifs chez quelqu'un et il va se rendre lui-même responsable de tous ces petits détails négatifs. Donc on engendre en fait continuellement une immense somme de culpabilité et d'illégitimité. Voilà. Donc c'est encore une fois là une autre source d'affaiblissement de l'estime de soi. Donc quand je parlais qu'elle évolue dans la vie, si on commence déjà avec une fondation plutôt légère, pas saine, affaiblie, on va continuellement, tout au long de notre vie, continuer en fait à l'affaiblir encore et encore. Et ça va amener à un renforcement de la solitude hein, parce que en fait, on a tous besoin de ce sentiment de sécurité-là qui ne va pas être atteignable lorsque l'on est constamment face au regard des autres que l'on prend pour des jugements et que par notre hypervigilance, on va détecter donc tous ces petits détails négatifs que l'on va se sentir responsable. Et donc, même si finalement la solitude est une peur extrême, on va être obligé de s'enfermer dedans finalement parce que ça va être la seule possibilité d'arrêter d'être soumis au regard si négatif des autres, enfin que l'on interprète tel que. Donc tout ça fait qu'on va développer un sentiment d'inéquation sociale alors même que le besoin d'appartenance est absolument extrême. Et donc là je reviens avec le besoin en fait d'appartenance à la société normée, à la normalité. Donc on voit bien que de telles polarités créent de véritables dissonances cognitives, un autre mot, un autre terme en fait pour parler des obsessions. Donc dissonance cognitive, je rappelle que en fait la réalité et ce que l'on voit est différent de ce que l'on pense ou de ce que l'on nous dit. Donc il y a vraiment une différence entre la réalité, la matière et ce qui est dit, ce qui est compris, donc au niveau plutôt des pensées et des mots. Donc ces polarités-là que l'on a vues entre le besoin d'être avec les autres et le besoin de solitude, la peur de la solitude, l'impression de ne pas être normal et de chercher si fortement un besoin d'appartenance à la normalité, fait qu'en fait, on va commencer justement à avoir des pensées obsessionnelles sur les autres et de douter en fait de façon constante de notre valeur, de notre bien fondée incarnation, etc., etc. Et ça va créer également la peur de déranger ou d'ennuyer les autres à cause de ce sentiment de non-légitimité et cette peur d'être jugé différent, anormal et de ne pas pouvoir appartenir à la grande normalité sociale. Donc, une faible estime de soi entraîne finalement la destruction du peu d'estime de soi qu'il y avait dans une espèce de spirale descendante de négativisme qui est nourrie et nourrie et nourrie. Et en fait, c'est vraiment la descente vers la dépression, vers la nuit noire de l'âme, etc. Parce que du coup, c'est vraiment une course qui devient de plus en plus folle, hein, finalement. Et ça entraîne le besoin de se rattacher avec ce que l'on a, donc de dépendance affective, le besoin excessif de reconnaissance. Ça entraîne également des agoraphobies, et bref, tous les symptômes qu'on a explorés jusqu'à présent pour l'explication de cette blessure. Nous avons donc jusqu'ici bien compris ce qui a causé cette faible estime de soi, hein, et on voit bien le rapport en fait avec la blessure d'abondance, mais il est temps désormais d'arrêter ce cercle vicieux d'affaiblissement constant et de commencer à reconstruire, puis à construire de façon saine, cette fondation de l'être, cette fondation de notre personnalité. Parce qu'une estime de soi saine va permettre de voir de façon juste, donc pas de façon extravagante dans un sens, on ne cherche pas à créer du superlatif par rapport à ce qu'on est, mais enfin de voir de façon réelle ses forces et ses faiblesses, mais aussi d'oser, donc de commencer, de faire le premier pas ou de faire n'importe quel pas et de persévérer, donc oser et persévérer dans ses projets, dans ses idéaux et puis également d'avoir des relations beaucoup plus agréables, plus saines, sans la peur constante de perdre l'autre ou du coup de vouloir tout le temps sa reconnaissance. Et puis un autre atout à une estime de soi plutôt bien développée, c'est également la possibilité, le savoir de s'affirmer, donc de reprendre là la force du ventre aussi, comme on a vu lors de la blessure d'impuissance. Donc pour reconstruire son estime de soi, eh bien on peut commencer par regarder par exemple dans quelle vie de nos proches ou des personnes que l'on a croisées, on a pu jouer un certain rôle, voire même un rôle important, que du coup il y a eu on a fait une différence en fait dans la vie de quelqu'un. On peut aussi commencer par accepter les compliments et les félicitations des autres, parce que oui, on cherche la reconnaissance, mais quand on nous l'offre, on la renie totalement. Donc tout doucement accepter, l'entendre, ne plus justement le diminuer ou dire oh c'est rien, mais juste se taire. Et le savourer en fait, savourer les compliments et les félicitations et accepter les émotions qui surgissent de cela. Parce qu'au début ça va pas être agréable du tout et on accepte que ce soit pas agréable, mais on accepte également de savourer. On peut également mettre en place un espèce de court-circuit des pensées négatives, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a une pensée négative qui est en nous, donc déjà ça c'est la première étape aussi, c'est voir, mais bon, on a fait tous les chapitres auparavant pour avoir cette capacité-là de voir lorsque l'on est dans cette dimension de la blessure. Et donc, dès qu'on s'en rend compte, on commence par les remplacer par des visualisations positives de notre propre réussite ou de la reconnaissance de quelqu'un qui nous dit ses félicitations. On peut tout à fait imaginer ça. C'est pas grave si c'est pas réel, on remplace, hein, on est vraiment dans la reprogrammation. Et puis également, on peut commencer à regarder le sentiment de fierté. Donc la fierté de soi n'étant pas, bien entendu, de l'arrogance, quand celle-ci en fait est juste, alors autant s'autoriser à explorer un petit peu ça sans se dire que la fierté a une connotation négative. La fierté n'en a pas. on l'a enregistrée telle quelle, elle a été détournée pour en fait la remplacer par de l'orgueil, par de l'arrogance, ce qu'on nous a appris à détester. Et du coup, à chaque fierté, en fait, on va ressentir un sentiment de honte et de culpabilité, alors que, bah, en fait, c'est une vision un petit peu tordue de la réalité. Hein. La fierté, en fait, c'est quelque chose de très très sain. On a le droit d'être fier de nos enfants, on a le droit d'être fier de nos réalisations. C'est important. En vérité, la fierté demande seulement d'être, d'oser être ce que l'on est, en fait, vraiment. Et franchement, il n'y a absolument rien de honteux à ça. Donc, rien de honteux ou de culpabilisant à se réaliser, en fait. Le paon, par exemple, n'a pas honte de déployer sa magnifique queue. Et nous avons à faire finalement un petit peu la même chose, c'est-à-dire nous déployer notre queue imaginaire, métaphorique, etc. pour nous aligner à notre empreinte, à notre destinée. Donc, commencer à réfléchir et à intégrer et à vivre un petit peu de fierté, un peu plus de fierté dans notre vie, va nous ouvrir en fait aussi des canaux pour que plus d'énergie s'écoule vers soi-même, vers le soi, le cœur du soi, parce que du coup, à partir du moment où on s'autorise à être fier, c'est un petit peu comme si on faisait une déclaration à l'univers que l'on est enfin prêt à devenir soi, ce qui était prévu. On est enfin prêt à passer à la construction, on a les plans, on passe à la construction de soi. Donc, en travaillant sur notre sentiment de fierté, on va commencer, comme ça, à reconstruire efficacement notre estime de soi. Alors, nous avons évoqué également la confiance en soi, qui est proche hein, de l'estime de soi, mais là où l'estime de soi nous parlait plutôt de valeur, la confiance en soi, elle, va nous parler de capacité. Donc, elles sont très très liées, hein, c'est vraiment très subtil ce qui les différencie, et elles sont liées également parce que si on ne s'estime pas capable de faire, on a beau avoir tous les outils, on a beau avoir tous les talents, eh bien, nous ne serons pas capables en fait de voir que nous les avons. Donc, on va les renier, on va s'abaisser, abaisser nos talents en fait. Et la confiance en soi, c'est le sentiment en fait d'avoir les ressources nécessaire en soi pour se réaliser ou juste pour faire face à certaines situations par exemple. Donc là on est plutôt à croire en fait en ses capacités et en ses qualités. Pour construire cette confiance en soi, nous devons passer par le respect de soi-même pour se détacher justement des regards des autres et commencer également par se remplir de pensées positives. Donc là on est vraiment aussi en lien avec la solution de l'estime de soi. Donc, ça va nous permettre de prendre de meilleures décisions au quotidien, de se respecter notamment, et d'arrêter de faire les choses en fonction du regard et du jugement d'autrui. Donc, pour cela, l'important, ça va être aussi de s'entourer de bienveillance. Donc, de ne plus accepter la toxicité de la part des autres, ou de garder parfois, de s'entourer d'un environnement toxique, ça peut être des objets comme des lettres ou des cadeaux des ex qu'on garde bizarrement. Ça peut être aussi continuer à s'habiller avec des vêtements dépassés, troués, ou par exemple continuer à boire dans des tasses ébréchées, c'est-à-dire c'est abîmé. C'est pas agréable dans le quotidien, mais on continue de s'entourer de ces objets-là, donc... Voilà, des petits plans aussi de vie à regarder. Ensuite, la confiance en soi est aussi boostée par l'appartenance. Et par là, je n'entends pas des relations de surface ou sur le plan des combats d'ego. Vous voyez un petit peu, c'est moi j'ai plus que ça, toi t'as plus que ça, etc. Là, on est vraiment plutôt dans des relations profondes. Alors... il faut commencer en fait progressivement à s'orienter vers ce genre de relations là en commençant la recherche de notre tribu par exemple par les passions que l'on peut avoir en commun, donc se tourner vers des associations autour de soi, etc. Et surtout ne pas hésiter en fait à continuer nos recherches jusqu'à trouver la perle rare. Donc on peut tomber sur 3-4 associations qui soient elles-mêmes toxiques et du coup se dire bah c'est pas là que je vais trouver mon appartenance, c'est encore à continuer. Et en fait, continuer les recherches et ne pas forcément s'arrêter à la première association que l'on trouve, hein, par exemple. Donc vraiment, vraiment à continuer nos recherches jusqu'à trouver la bienveillance totale et de continuer à vraiment prendre nos distances avec les ambiances toxiques. Et quand on parle de bienveillance, c'est aussi à soi-même en fait de développer notre propre bienveillance en coupant court du coup à tous les jugements négatifs que l'on peut avoir dans cette hypervigilance que l'on a développée. Donc quand on remarque que l'on est en hypervigilance et en jugement négatif, eh bien on peut déjà commencer par constater et progressivement remplacer ces pensées-là par du positif, par de la gratitude par exemple, et de reconnaître en fait, de s'autoriser à ce que des inconnus puissent être tout à fait humains et avoir des faiblesses humaines. Donc progressivement constater, progressivement faire des petits pas, et également faire des petits pas dans la réalisation de soi, dans l'accomplissement de nos projets. Donc pas forcément des grandes choses, mais des tout petites choses, et de s'en féliciter, de vraiment être fier, même pour des baby steps, hein, comme ils appellent les anglophones, donc vraiment des pas de bébé, et de vraiment aller loin dans la félicitation, aller loin dans la fierté de ce qu'on ressent pour ces tout petits pas qui n'ont rien d'extraordinaire et que personne ne va trouver incroyable, et bien d'être ce soutien-là, en fait, de reconnaître et de s'offrir cette reconnaissance. Donc tout ça, bien entendu, ça demande énormément de travail, hein. J'ai énuméré beaucoup, beaucoup de choses. Et on va explorer pas mal de ces thématiques dans la suite de ce chapitre. Et oui, j'oublie l'amour de soi, on va pas l'oublier. L'amour de soi qui, en fait, est la capacité tout simplement de s'aimer soi-même inconditionnellement, que ce soit ses défauts, ses blesses, tout autant en fait que ses forces et ses talents. Donc de tout accepter de soi en fait comme on l'accepte de ses propres enfants ou de ses proches que l'on adore. Donc l'amour de soi en fait on peut le voir également comme si on devenait un ami, un véritable ami pour soi-même. Un ami exigeant qui veut le meilleur pour nous, mais un ami qui ne nous juge jamais. Donc, un ami également présent, disponible, notamment ici envers les sensations du corps, en regardant et en accueillant ses émotions, comme nous avons appris à le faire, notamment dans les chapitres précédents. Un ami également tolérant, qui accepte bien entendu tout ce que nous sommes, et qui va devenir en fait notre propre soutien finalement, celui que l'on recherche chez les autres. Eh bien, nous pouvons le devenir nous-mêmes, être un petit peu comme sa propre pom-pom girl hein, qui nous soutient si on veut. Donc, estime de soi, confiance en soi et amour de soi sont liés. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'à partir du moment où on va travailler sur l'un, eh bien, on va monter, on va aider les autres en fait à devenir de plus en plus sains également. Donc, c'est aussi en cela qu'ils sont regroupés en un seul et même joyau unique. Dans la suite, je vous propose un nouveau questionnaire. Oui, encore un, et il y en aura encore bien d'autres pour notre journal. Mais voilà, c'est ce qui est très efficace pour se rendre compte de plein plein de choses. Et puis, pour terminer, je voudrais juste parler un petit peu du fait que avoir beaucoup d'amour de soi, d'estime de soi et de confiance en soi implique également beaucoup de respect de soi et de se faire passer en premier. Et là aussi, il y a une certaine honte et culpabilité parce que on nous a appris également un concept tordu qui est la notion d'égoïsme. Donc, c'est si je me nourris avant les autres, je suis égoïste. Si j'utilise par exemple ma gomme sans la prêter à mon voisin, je suis égoïste. Eh bien, c'est pas du tout ça le concept d'être égoïste. En fait, c'est vraiment autre chose. C'est en fait quand nous souhaitons que les autres nous fassent passer avant leurs propres besoin. C'est-à-dire que, imaginons que mon voisin, il a besoin d'eau, et que, voilà, vraiment besoin d'eau pour boire, etc. Et que moi, j'ai besoin d'eau pour remplir la piscine, et que je lui prends son eau, et que du coup, lui, il ne peut plus rien faire, mais que du coup, je le prends pour ma piscine. Et que si le voisin commence à me dire que c'est pas très sympa, et moi, je le traite d'égoïsme. Ben, soit, c'est bon, on partage son eau. On voit bien ici que c'est plutôt le fait de faire, de demander aux autres de faire passer nos besoins avant les leurs. Donc en fait, il devrait y avoir en priorité de faire passer nos besoins à tous d'abord avant de faire passer les autres. Et ça, on est vraiment dans des comportements abusifs. Et quand je parle de comportements abusifs et d'environnement abusif, ce n'est pas non plus sur le plan de la conscience, sauf en cas de perversion narcissique. L'environnement abusif est un environnement qui n'a pas conscience de l'être. C'est vraiment sur le plan de l'inconscient. C'est profiter d'une personne, en fait, tant qu'elle dit oui, même si c'est contraire à ce que la personne puisse se respecter elle-même. C'est finalement, si la personne ne met pas de limite, voilà, c'est continuer à en profiter. Et donc, l'égoïsme, ce n'est pas, du coup, remplir ses propres besoins avant de répondre à l'appel des autres. C'est pas du tout ça, alors que c'est ce qu'on nous a appris à faire. Donc revenir aussi à des concepts beaucoup plus justes, à les revérifier et revérifier la façon dont on les croit jusqu'à présent. Donc c'est un petit peu, pour vous donner une image également, c'est quand on prend l'avion et qu'on a nos enfants, et que du coup on nous apprend à mettre d'abord le masque sur notre visage avant de le mettre sur la tête de nos enfants. D'abord on remplit notre besoin avant de remplir les besoins des autres, s'ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. Donc c'est vraiment d'abord remplir sa coupe, son graal, avant d'offrir ce qui va déborder aux autres. On n'a pas en fait, tant que notre coupe n'est pas pleine, à donner. Il faut d'abord se donner à soi-même, et ça, ce n'est pas de l'égoïsme. Nos besoins n'ont pas à passer après ceux des autres. Ils sont autant valables. Et ça, quand on commence à développer une bonne estime de soi et l'amour de soi, c'est quelque chose à laquelle on va accéder de plus en plus. Donc ça va venir de voir en fait que les besoins des autres ne sont pas supérieurs aux nôtres. Voilà. C'est aussi un petit peu comme le jugement finalement. Le jugement, donc on parlait beaucoup de jugement négatif, le jugement en fait c'est de demander aux autres d'agir selon nos propres valeurs à nous. Alors que du coup, le but c'est que eux agissent selon leurs valeurs à eux. Donc il y a une forme comme ça d'attente que l'on remplisse nos valeurs, que d'autres remplissent en fait nos valeurs. Et c'est aussi la même chose avec le discernement, qui est différent du coup du jugement, comme l'égoïsme l'est. C'est-à-dire que quand on est dans le jugement, c'est qu'on attend que les autres agissent selon nos valeurs, et quand on est dans le discernement, c'est qu'on observe en fait que les valeurs des autres ne sont pas les mêmes que les nôtres, et on l'accepte, c'est tout à fait ok. C'est pareil, chacun ses valeurs, chacun ses besoins, il faut un petit peu arrêter d'imaginer qu'il y a des besoins supérieurs et des valeurs supérieures aux autres. Chacun les siennes, chacun sa propre perception, chacun sa propre route, chacun sa propre âme, chacun sa propre empreinte. Voilà, donc je vous dis à très vite pour la suite avec un questionnaire sur toutes ces questions-là, et puis nous allons approfondir progressivement ces différentes thématiques. Je vous dis donc à très vite pour la suite de l'atelier.